Donc une chose moi, qui m'avait quand même sauté aux yeux la fois passée, c'est cette histoire de répétition. Le fait que la vision est répétée trois fois, enfin le contenu en tout cas globalement. Et je me suis dit que peut-être que quand Dieu veut nous interpeller ou nous convaincre, notamment d'un big changement, hein, pour un juif comme Pierre, ben, il prend son temps, puis surtout il revient à la charge. La répétition, c'est une manière de travailler finalement. Et peut-être que Pierre aussi, dans sa difficulté à comprendre, cherche des confirmations finalement. Donc la répétition est peut-être aussi nécessaire pour confirmer ce qu'il a cru comprendre la première fois, puis peut-être la deuxième, puis la troisième, etc. quoi. Et alors la deuxième chose importante qui m'avait quand même semblé intéressante, c'est donc en gros, par l'intermédiaire de Pierre, les juifs sont appelés à élargir la tente de l'Église, faire en sorte que les païens, qu'on appellera plus tard les judéo-pagaléens, puissent entrer dans l'Église, dans la communauté des croyants. Et je me suis posé la question par rapport à ça. Donc c'est un énorme changement pour le public juif que des païens fréquentent finalement la communauté messianique. Je me suis demandé si on applique ça aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas devant les mêmes difficultés quand les païens d'aujourd'hui s'approchent de l'Église ? C'est-à-dire, les païens d'aujourd'hui sont aux antipodes de ce que la plupart d'entre nous croyons. Je pense par exemple à la problématique des genres, à l'homosexualité, etc., etc. Donc on veut peut-être se poser la question de savoir si tous ceux qui sont différents, ou pour reprendre les termes de la foi d'avant, de la péricope d'avant, tous ceux qui sont immondes ou dérangeants, pour adopter un vocabulaire plus soft, est-ce que tous ceux-là ne sont pas aussi à accueillir ? Donc comme les Juifs ont dû accueillir les païens, est-ce que nous n'avons pas nous aussi à faire un big travail sur nous-mêmes pour que l'Évangile touche aussi ceux vers qui nous ne sommes pas enclins à aller nécessairement de par nos croyances, etc., etc., quoi. Voilà. Sinon, il y aurait sans doute plein d'autres choses à dire, mais comme ce n'est pas frais dans nos esprits, on va attaquer la lecture d'aujourd'hui. Donc, on se retrouve devant quelques versets, les versets 19 à 24 que j'avais intitulés « Mission accomplie pour les envoyés de Corneille ». Donc, pour rappel, Corneille, officier romain, envoie deux émissaires et un soldat chercher Pierre à environ 50 km de là où il habite parce qu'il a eu une vision et que cette vision lui disait d'inviter Simon-Pierre, ce qu'il fait. Voilà. Donc maintenant, on peut replonger dans la lecture à partir du verset 19, bon, si quelqu'un veut le faire, jusqu'à 24 compris.
Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit « Voici trois hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et il dit à ses hommes « Voici, je suis celui que vous cherchez, quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis à Tine.
Okay. Voilà, donc pour souvenir, quand même qu'on se replonge un peu dans le bain. Après les visions respectives de Corneille d'abord, puis de Pierre, les envoyés de Corneille sont enfin arrivés à Joppé. Donc ils ont mis deux jours pour arriver. L'apôtre, de par sa propre vision, a appris que rien de ce que Dieu a purifié, c'est ça que dit le texte, ne doit être considéré comme immonde ou comme souillé. Et donc l'heure est venue maintenant, dans la péricope que nous analysons, de mettre tout cela en pratique immédiatement, cette fameuse découverte, en recevant d'une part les envoyés de Corneille, puis en se rendant à Césarée, comme tu viens de le lire, ce qui représente un bond en avant pour les communautés messianiques. C'est-à-dire que les communautés messianiques, ce ne sera plus de l'entre-juif, mais ça va être un mélange de païens et de juifs qui vont vivre en bonne intelligence pendant assez longtemps, finalement, jusqu'à ce qu'il y ait une rupture assez profonde entre le judaïsme et la voie messianique, en gros. Voilà, donc j'avais posé dans le questionnaire une première question sur l'état d'esprit de Pierre à l'arrivée de Corneille.
Il ne comprend pas sa vision.
Il est en pleine réflexion.
Il est toujours en train de chercher le sens profond de la vision qu'il a reçue. Hein. Donc ça, c'est le verset 19. Malgré ce qu'on a déjà vu au verset, c'est-à-dire l'insistance de cette vision, ou l'insistance de Dieu dans cette vision, pour que Pierre comprenne de quoi il s'agit. Et finalement, qu'est-ce que vous en déduisez de ce verset 19 ? Si on inclut la deuxième partie du verset, par exemple.
Que l'esprit lui parle.
Oui, donc la première phrase, c'est la préoccupation. Il est toujours en train de chercher le sens de la vision. Mais la deuxième partie du verset, c'est quasi la solution. C'est-à-dire que l'esprit lui révèle que voilà, si tu n'as pas tout à fait compris, maintenant tu vas devoir accueillir ceux que je t'ai envoyés, hein, quelque part. Quoi. Ok. Après, je vais poser une deuxième question sur comment Pierre va-t-il être convaincu de ce qu'il doit faire. Parce que être convaincu intellectuellement d'un changement nécessaire, c'est une chose, c'est déjà bien compliqué parfois. Mais être convaincu dans les faits, devoir appliquer ce que l'on a compris, c'est une autre paire de manches.
Déjà, il les fait entrer.
Oui, mais donc là, verset... Donc, voici deux hommes qui te cherchent, hein, sous-entendu, ben maintenant, il faudrait peut-être que tu t'approches d'eux. Et que se passe-t-il à ce moment-là ?
Il descend. Donc, il a dit de descendre, parce que c'est l'esprit qui l'a envoyé. Hein. Ça a été assez ferme, je trouve.
Il obéit à l'esprit.
Part avec eux sans hésiter. Arrête de te poser des questions, arrête de réfléchir.
Oui, okay. Agis.
Donc, c'est l'esprit qui le pousse. On le voit déjà dans le verset 19. Hein. C'est l'esprit qui prend les rênes de cette situation, qui lui indique la nécessité d'accueillir ceux qui sont là, et puis qui lui dit carrément, bah, maintenant, tu n'as plus qu'à descendre de ton toit, puisque tu es sur le toit, et demain, tu prendras la route avec eux. En gros, c'est ça. Donc, c'est vraiment bien tracé, bien balisé, ce que Pierre doit comprendre de la vision qu'il a reçue.
Un petit élément qui semble être très précis pour Pierre, c'est que l'esprit lui dit trois hommes, et en bas, il y a trois hommes. C'est un détail qui, pour Pierre, devait être marquant. Pas deux personnes te demandent, non, c'est trois hommes.
Mais ça dépend les versions.
Oui.
Dans ma traduction, c'est deux hommes, et il paraît que dans d'autres...
Dans d'autres, c'est trois.
C'est des hommes. Oui, trois.
Exactement.
Mais c'est plus logique, trois.
Ça, on l'avait déjà vu, je pense, avant.
Oui, oui.
Avec Corneille.
Oui.
Il y a une hésitation pour certaines traductions, où c'est deux, et d'autres, c'est trois.
En fait, dans les manuscrits, il y a trois versions. Il y a des hommes, deux hommes, trois hommes. Oui. Ça dépend. Les manuscrits les plus anciens comportent plutôt trois hommes, d'ailleurs. Ce qui est assez logique, entre nous soit dit, puisqu'il envoie deux émissaires et un soldat pour la sécurité. Donc voilà, c'est effectivement trois hommes. Maintenant, ça ne nous empêche pas que s'il y a marqué deux hommes dans nos traductions, on peut accepter l'idée que ce sont les deux émissaires et qu'on ne compte pas le soldat. Donc voilà, il est là pour la sécurité, il n'est pas là pour le message.
Voilà, d'accord. Rien à voir là-dedans. Enfin, au départ, disons.
Donc finalement, tout le monde peut être satisfait, quelle que soit la traduction qu'on a dans nos Bibles. Voilà. Et qu'est-ce qui lui donne comme ordre, alors, de descendre hein? Descendre tout de suite.
Lève-toi, descends,
départ. Déjà, ça nous fait prendre conscience que Pierre n'a même pas conscience que ces émissaires-là sont arrivés. Peut-être les gens de la maison Simon le corroyeur et d'autres ont entendu crier, etc. Mais Pierre est tellement absorbé, lui, par sa préoccupation, qu'apparemment, il ne sait même pas qu'ils étaient là. C'est l'esprit qui lui dit, finalement, qu'il y a deux hommes qui l'attendent et qui doivent descendre, etc., etc. Donc, il n'était pas franchement au courant, on va dire. Voilà. Ou bien il était préoccupé par le bon repas qu'il attendait. Ça aussi, ça peut être une version selon... si on se souvient du texte de la fois dernière. Et alors, il y a dans la partie des ordonnancements du programme, il y a cette fameuse phrase « Prends la route avec eux ». Alors, ça dépend ce que vous avez dans vos versions. Je ne sais pas ce que moi j'ai dans la tobe.
Sans faire aucun scrupule.
Voilà.
Sans hésiter.
Sans hésiter. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Quelqu'un a encore autre chose ?
Sans hésiter.
Alors, le sans scrupule de la top se rapproche du grec, mais un peu plus que le sans hésiter.
Oui, parce que comme ce sont des païens, peut-être qu'il a encore des scrupules à les suivre.
Oui, bien sûr qu'il en a, son naturel d'ailleurs. Okay. Mais le grec dit plutôt quelque chose qu'on pourrait traduire « suis-les sans établir de distinction ». Sans faire la distinction entre toi qui es juif et eux qui sont païens. Ou le texte, si on le voit plus littéralement, en ne séparant pas, voyez, en ne classifiant pas, etc. Mais donc l'idée, c'est de vraiment les suivre, même s'ils portent l'étiquette de païens, et même si c'est des païens craignant Dieu. Puisqu'on a vu dans les fois précédentes que la plupart des gens de maison de Corneille étaient croyants comme Corneille. C'est-à-dire... croyant dans le judaïsme radical, pas le judaïsme messianique. Okay. Donc voilà pourquoi l'esprit insiste sur tout ce qui doit être fait, tout ce qui doit être mis en œuvre, pour que Pierre n'ait pas l'ombre d'une hésitation, finalement, à aller plus loin dans sa mission. Et l'esprit précise, et c'est, je pense, qui donne le coup de massue à Pierre,
c'est moi qui les envoie.
Voilà. Donc ça, au moins, ça a le mérite d'être clair. On peut se poser la question de c'est qui le moi en question.
L'esprit.
Oui, voilà. On peut dire que c'est l'esprit, bien entendu, puisque c'était un peu plus haut dans les versets. Mais en même temps, cet esprit ne parle pas en son nom propre,
mais
parle
l'esprit,
au nom,
c'est Dieu.
Voilà,
nom de Dieu,
de Dieu qui délivre un message, ou bien au nom du Seigneur, peu importe. Hein. Du coup, c'est impossible à Pierre de refuser, finalement, d'aller au bout de cette mission. Il ne peut que comprendre qu'il doit accepter d'être en relation avec des gens qui sont qualifiés, repérés comme païens, ces fameux hommes de Césarée, au service d'un officier romain.
Hein, c'est plus pas,
voilà. Qu'il ne doit donc pas avoir de scrupules. Sous-entendu, peut-être que le mot scrupule que la Tobe utilise est une manière de rappeler les scrupules qu'il a eus au moment de la vision, quand il s'agissait de manger de n'importe quel animal. Hein. Donc il y a une espèce d'allégorie, là, une image qui nous reparle de cette situation. Mais en même temps, on peut considérer qu'avec ce que l'Esprit lui dit là, il y a une réponse très complète au questionnement qu'il avait au verset 19. Donc maintenant, il ne peut plus y avoir de « je suis préoccupé parce que je ne comprends pas la vision ». Maintenant, tout est dit, tout est mis à plat, et il ne lui reste plus qu'à s'exécuter. Ce qu'il va faire, on le voit dans le verset 21, en acceptant de rencontrer les envoyés de Corneille, en fait.
Moi, ce que j'ai trouvé quand même vachement impressionnant, c'est de se dire à quel point Dieu s'est adapté à la personne à qui il parlait. Quand on avait vu l'appel à Philippe, qui était super vague, où il l'envoyait au milieu du désert, sans lui expliquer
tu ce qu'il
fallait. Aussi, il lui dit... Lève-toi, descends, pars avec eux. C'est moi qui. Enfin, je veux dire, il se part de toutes les précautions pour être sûr que Pierre.
Va faire.
Et copain, qu'il a bien compris. Et bien. Il me dit, c'est quand même une belle différence, quoi. Une belle adaptation à la personne qui est en face avec sa manière de réagir. Quoi. Mm-hmm. Ouais.
Et en même temps, j'ai l'impression que Pierre n'a pas encore tout compris à 100%.
Il va probablement encore découvrir progressivement. Tout à fait.
Il commence peut-être à voir tout doucement la lumière au bout du tunnel, mais c'est toujours dans un tunnel et il voit au loin la lumière. Il commence à comprendre peut-être étape par étape. Parce qu'il ne sait peut-être pas encore exactement pourquoi il doit aller voir Corneille. Exactement. Dans quel but.
Oui, c'est assez vague, hein, finalement. En même temps, on peut se dire, qu'en connaissant Pierre au travers des quatre évangiles, que tout ce côté insistance, développement de l'esprit pour expliquer exactement tout quoi, ça tient quand même au caractère de Pierre, qui était plutôt un fonceur, prêt à démolir tout, et puis voilà, qu'il n'y avait pas trop de, d'organisation rationnelle, on va dire. C'est le fonceur, quoi. Donc là, il est rappelé un petit peu dans les cordes, là, il faut faire ci, il faut faire là, c'est bien délimité, bien... Mais comme tu le dis, on va s'apercevoir dans la suite du texte et de la texte de la fois prochaine que Pierre découvre aussi ce que ça veut dire d'obéir à cette vision, d'aller jusqu'au bout des choses. Je pense qu'il ne mesure pas encore la totalité de ce que ça représente. Et donc, verset 21, Pierre descend. Il rejoint les gens, alors je vous rappelle, il rejoint les gens, non pas au rez-de-chaussée, mais à la porte extérieure, qu'ils n'ont toujours pas franchi, eux. Hein, ils sont restés au portail, parce que ce sont des païens. Enfin, on les repère comme païens, en tout cas. Donc il va les rejoindre, et il leur déclare, donc c'est bien moi que vous cherchez, voilà, je suis celui que vous cherchez, et il leur pose une question. Quelle est la raison de votre visite? Parce qu'effectivement, il n'en sait toujours rien lui-même. Pourquoi Dieu lui envoie ces fameux païens? Et que se passe-t-il à ce moment-là?
Ils répondent. Et ils expliquent qui est Corneille. Pour, enfin, oui. Mm-hmm. C'est pas n'importe qui, quoi, quand même. Hein. Il a déjà fait un pas. Pas vers la religion juive, enfin vers le...
Tout à fait. C'est un craignant Dieu. Oui. Il n'est pas circoncis, mais c'est un craignant Dieu.
Et alors il fait du bien autour de lui aussi. Donc ce n'est pas seulement un témoignage de foi, c'est aussi un témoignage d'attitude et d'agissement. Oui.
Qui montre sa compréhension, en tout cas,
de la parole.
Oui, exactement.
Je trouve aussi qu'ils n'exécutent que leur mission. Il ne commence pas à palabrer, à discuter, à dire « Oui, mais Corneille, on le connaît depuis des années, ceci, cela. » Non, Corneille, en deux phrases. Corneille, centenier, homme juste et craignant d'eux, de qui toute la nation rendait mon témoignage. Et puis, paf, il a été
le contenu de la révélation.
Divinement averti par un ange. « Tu dois venir. » Basta, c'est tout.
Et tu dis deux phrases, on crée que c'est une phrase.
Oui, une longue phrase.
Ça m'a impressionné.
Oui, donc ils ne cherchent même pas à
édulcorer ou compléter.
Oui, c'est de convaincre.
Ils font leur
pas.
Mission. Et ils ne sont pas
on délivre le message, c'est comme s'il y avait un papier, quoi. Voilà.
Et moi, j'étais frappée par le fait qu'ils disent plein de qualités de Corneille, parce que, bon, convaincre quelqu'un d'aller chez un inconnu...
Païen.
Il faut le vouloir de les suivre, quoi. Et...
En quelques mots, tout est dit. Hein.
Oui.
Et tout est dit de manière très juste par rapport à la mission reçue quelques versets plus tôt, hein, quand on a vu l'attitude de Corneille quand il envoie ces trois personnes. Hein. Alors évidemment, il y a des choses qu'on ne peut, même dans cette petite partie du verset 22, comprendre... en lisant le texte en français. Mais quand même, l'histoire de l'ange, hein, moi dans la taupe, j'ai un ange saint lui a révélé, etc., etc. Le verbe qui est utilisé en grec est un verbe assez fort, krematizo. Ça désigne toujours dans le Nouveau Testament une révélation divine. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est pas juste une communication ou un avertissement. C'est vraiment un contenu qui dévoile quelque chose, d'accord? Et d'ailleurs, dans le grec ancien, dans le grec qui n'est pas celui de la koiné, du Nouveau Testament, cela signifiait recevoir une réponse à un oracle. Vous voyez? Donc, quand Corneille reçoit sa vision, c'est comme si quelque chose de prophétique lui était annoncé et dévoilé, même si lui-même ne comprend pas. Qu'est-ce que ce Simon-Pierre va bien pouvoir lui apporter? Qu'est-ce qu'il va venir faire, etc. Il n'en sait rien en ce qui le concerne. Et voilà, donc, cet ange saint lui a révélé quelque chose, mais cette révélation est une réponse, comme on l'avait déjà vu, réponse de Dieu aux prières de Corneille, à sa vie de prière et de piété, on va dire. Voilà. Alors après, qu'est-ce que j'avais demandé? Ouais, si vous deviez apprécier la réponse, quel commentaire vous feriez de ces braves messagers? Mais je crois qu'on en a déjà dit un petit peu. Hein. Ils accomplissent fidèlement leur mission. C'est très concis, très simple, etc.
Et pourquoi mettre un saint ange? Les anges ne sont pas tous des saints.
Lucifer, par exemple.
Oui, mais enfin,
il y en a qui sont plus saints que d'autres. Donc c'est au verset 22.
Oui.
Moi, je n'ai pas de saint.
Converti par un saint ange.
Un ange,
de te faire
un ange saint en grec. Pareil.
Enfin, je me suis posé cette question-là.
Oui.
Parce que au-dessus.
Si c'est un ange envoyé de Dieu,
Participe à la sainteté du Père. Mais bon.
Oui, comment quelqu'un qui ne soit pas saint peut être dans la présence de Dieu? Il a été envoyé de Dieu, Dieu qui est saint, là où il habite. Il n'y a que sainteté pour moi.
C'est d'ailleurs intéressant parce que.
Je ne sais pas moi. Mais. Moi, je suis en train de me dire que ange, c'est messager.
Envoyé, messager.
Donc, là, un messager, ça peut être n'importe qui. Mais ici, un ange saint, comme tu dis,
un messager divin, on pourrait traduire aussi. Venant en tout cas de Dieu.
Il était habillé en blanc.
Oui, mais ça, c'est au chapitre suivant, je ne sais plus maintenant.
Parce que je me suis posé cette question-là, mais avant, il me parlait de l'Esprit. Mais on parle aussi du Saint-Esprit. Mm-hmm. Alors pourquoi ne pas avoir dit aussi le Saint-Esprit de l'envoi? Je ne sais pas.
Oui, parce que voilà.
C'est des précisions que je ne comprends pas.
Lui, il a vu une forme humaine qui lui adresse la parole, il en a tiré la conclusion que c'était un ange. Un envoyé, pour reprendre.
Il faut dire que c'est apparemment. Enfin, pour moi, je trouve que c'est. Ici, Luc est en train de rapporter la parole
de l'envoyé.
De l'envoyé. Ouais. L'envoyé, c'est un non-juif, un païen. Mm-hmm. Bon, ils ont un intérêt, une appréciation et un amour pour la religion juive, mais pour eux, en tant que païens, ayant eu une vision, ça doit être encore plus majestueux et plus divin que pour les juifs. J'ai l'impression. Ils doivent probablement, en tant que païens, aborder cette vision de Corneille, comment dire, d'une manière plus spectaculaire, dans le sens divin.
Mais il dit quand même aussi, a été divinement averti.
Ouais.
Donc il le dit déjà.
Ouais. Ils ont... C'est comique et c'est bizarre.
Mais ça, c'est la traduction française.
Bah oui, moi je ne connais pas.
Le divinement, c'est l'ange saint, le divin.
Ils ont une vision de la sainteté du monde de l'éternel. Pour des non-juifs, pour des païens, probablement des gens sans avoir connu Dieu avant, ils étaient dans des religions complètement païennes.
Avec des dieux, des déesses, des demi-dieux,
Jupiter et toute la bande. Ils ont déjà une vision que le monde de Dieu est saint, y compris les anges qui tournent autour de Dieu. Ouais, ils rapportent les paroles de l'envoyé, donc ils ont déjà un respect, une idée de ce que le royaume de Dieu est. Sorte. C'est un monde saint.
En tout cas, un monde différent, séparé de ce qu'ils ont connu avant.
Donc, en grec, il n'y a pas le mot divinement averti par un
saint. Non, il est averti par un ange saint. C'est ça que dit le grec.
D'accord.
Voilà. Alors, la traduction C'est normal, des traductions, ça ne peut pas être du mot à mot, ou alors on aurait des Bibles bizarres. Voilà. Donc chaque traducteur essaie de transmettre l'idée, qui n'est pas fausse, le divinement averti, effectivement. Du moment que c'est un ange qui le fait, pas de problème.
Oui, les études de la Bible éclatantes.
Ça, c'était plus loin, non ?
Oui, c'est plus loin.
Oui, j'ai fait ici,
là. Mais il y a encore aujourd'hui des gens qui ont des visions,
bien sûr,
qui voient des anges, ou Jésus lui-même, et il y a toujours quelque chose de rayonnant, d'éclatant là-dedans. Mais bon, voilà, c'est tout ce que je peux dire.
Il y a quelque chose à voir avec la gloire, hein, en principe, cette histoire de luminosité. Ouais. C'est quelque chose qui a à voir avec la gloire de Dieu. Ok, alors, et du coup, bah, cet ange lui révèle quoi ?
Sa mission à Pierre, cette fois-ci.
Oui, il révèle à Corneille qu'il doit faire venir un tel.
À Corneille.
Ah, ok. Et pourquoi faire, alors ?
Pour l'entendre.
Oui, pour
entendre tes paroles.
Moi, dans la top, j'ai pour t'écouter exposer des événements. Mm-hmm. Je ne sais pas ce que vous avez d'autre.
Entendre tes paroles.
Entendre tes paroles, etc. Mm-hmm. Alors, en grec, on a... d'entendre les paroles de toi, mais le mot parole, justement, c'est le mot rhémata, qui peut se traduire aussi bien par parole, justement, que par événement. Alors, on va faire un petit jeu de mots, si vous voulez, mais pour faire simple, on pourrait comprendre des paroles à propos d'un événement. Pierre est missionné pour expliquer des événements, pour parler d'événements qui ont eu lieu. Et on se doute un peu desquels, nous.
Hein,
peut-être pas. Peut-être pas Corneille, mais nous, on sait que c'est à propos de Jésus, finalement, en gros.
Mais à l'annonciation, c'est le même mot.
Exactement.
Et on traduit par « rien n'est impossible à Dieu », mais en fait, on devrait traduire par « parce qu'aucune parole venant de toi ». Oui, je ne sais plus maintenant. Mais en tout cas... Ça révèle que Dieu est fidèle et pas que Dieu est capable de l'impossible. Quoi.
Voilà. Au fond, on peut parler d'intervention divine dans l'histoire. Alors, la venue de Jésus en est une, et puis il y en a plein d'autres au travers de l'Écriture, évidemment. Et c'est encore ce qu'il fait aujourd'hui. Si Dieu est Dieu, c'est encore ce qu'il fait aujourd'hui, même dans des événements qui n'ont rien à voir avec le religieux. Alors on va prendre un bête exemple historique, mais la chute du mur, par exemple, en 89, personne, pas même les Allemands, n'y aurait pensé, malgré les manifestations à l'Est contre le communisme, etc., les églises protestantes se mobilisant, personne n'aurait cru qu'en quelques heures, le mur allait être détruit et que tout le monde allait pouvoir être réunifié. Voilà. Alors, moi, je pense que ces grands coups-là, dans l'histoire, sont des manières de Dieu de se manifester dans l'histoire des hommes. Après, les hommes en font ce qu'ils veulent. Hein. Ils ne comprennent pas toujours non plus la notion d'intervention divine.
Même quand Jésus faisait des miracles, ça dépend comment les gens reçoivent.
Et quand Dieu parle, il fait. Quand il parle, c'est un événement.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas de parole neutre. Toute parole a des conséquences visibles dans l'histoire, dans notre histoire à nous-mêmes. Et dans la question que j'avais posée à ce propos de ce verset, il y avait donc l'idée de savoir si Corneille a une idée précise de ce que Simon-Pierre va venir faire chez lui.
Je
vous avais demandé de comparer verset 22 avec le verset 5 qui précédait, puis le verset 33 qu'on n'a pas encore étudié, pour avoir un peu une idée. Mais effectivement, tu as raison, Brigitte. Manifestement, il ne voit pas qu'est-ce que cet homme va bien pouvoir venir faire, mais fidèle à la vision, il obéit lui aussi et il envoie ses envoyés chercher cet homme-là.
Parce que le verset 5 envoie des hommes à Joppé pour en faire venir un certain Simon, surnom Pierre, et rien de plus. Quoi.
Voilà. Tout ce qu'il sait, c'est que ça a quelque chose à voir avec sa piété. Donc la vision, lui intimant d'inviter tel homme, c'est une manière de répondre à ses propres demandes à lui. Donc on peut supposer que dans les prières exposées par Corneille, il y avait des demandes par rapport à une meilleure suivance de l'Éternel. Enfin, je ne sais pas exactement le contenu, mais qui est quelque chose de plus, finalement, dans sa manière de vénérer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et puis voilà qu'on lui dit, ben oui, nous, on a une suggestion à te faire, invite Simon-Pierre, et puis tu en sauras un peu plus. Ouais, mais donc, globalement, il ignore le contenu de ce que cet homme va pouvoir lui révéler concernant ces fameuses paroles ou ces événements. Et il ne le saura pas tant que Pierre ne sera pas dans sa maison en train de discourir. Et c'est seulement dans les versets 37 à 44 que Corneille et Pierre, peut-être aussi, va prendre conscience de tout ce que ça représente comme changement, en tout cas. Et alors là où on voit que Pierre a quand même compris un peu la vision, ben c'est dans la suite de notre texte, notamment au verset 23.
Il les fit entrer.
Et les loges.
Exactement. Donc, non seulement il les fait entrer, il offre l'hospitalité, c'est-à-dire qu'il offre le couvert et le gîte. Mm-hmm. Et effectivement, ils vont passer une nuit là, dans la maison de juifs, de personnes juives. Et donc, on peut dire que dès que Pierre entend le message des envoyés, quand il a le message de Corneille, finalement, il entre pleinement dans l'obéissance au plan de Dieu. Là, il commence à vraiment faire coïncider tout. Et pour la première fois de sa vie, il fait fi des règles, ouais. C'est-à-dire les règles habituelles du judaïsme. Rappelez-vous le verset 28. Les envoyés d'origine païenne sont donc priés d'entrer, rentrer chez un juif, manger, dormir, et puis partir le lendemain matin.
Je suis en train de réaliser, mais Pierre, il est en train de recevoir l'hospitalité de Simon le Corroyeur.
Exactement.
Et alors, oui, il lui fait faire encore plus d'hospitalité. Oui. Et une fameuse, quoi.
Apparemment, Simon le Corroyeur est moins gêné que Pierre, vraisemblablement. Comme on avait vu auparavant, ben oui, être corroyeur, c'est travailler des cadavres animaux. Oui. Animaux et des peaux d'animaux, c'était déjà pas très sain pour un juif. Donc lui, il est un peu habitué à transgresser quelques règles quand même pour pouvoir faire son job. Hein. Donc oui, lui, il est peut-être moins pris aux entournures. Ceci dit, ça montre aussi la générosité, l'hospitalité sémitique, hein, traditionnelle, aussi bien chez les Arabes que chez les Juifs, où on va se fendre en quatre pour recevoir quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas et qui est de passage, ici en l'occurrence des païens. Donc là, il y a quand même quelque chose d'assez incroyable, quoi. Et vraisemblablement, vous vous rappelez, il y avait la bonne odeur du repas là. Donc sans doute déjà le repas de midi va être partagé à plusieurs. Ok, alors
je peux poser une question. Tu as dit qu'il ne savait pas du tout ce qu'il faisait et qu'il obéissait. Hein. Mais on l'a bien lu aussi dans le verset 4. Hein. Verset 4. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Donc, c'est une réponse à ses prières et ses aumônes. Donc, il ne connaît pas exactement le domaine, mais il peut quand même être interpellé, se dire, ben oui, puisque on me répond, quoi. Je ne sais pas encore quoi, ni comment, mais bon, il y a une réponse qui va arriver.
En tout cas, il y a suffisamment de foi que pour envoyer 3 envoyés à 50 km, en ne sachant pas si celui qui est au bout va accepter la mission.
Oui, mais il le croit, c'est un
homme. Oui, lui, Corneille, il applique vraiment le... Voilà. Il joue le jeu. Ouais. Il n'a pas peur. Et il prend la peine d'envoyer un soldat, ce qui n'est pas rien, d'envoyer un soldat pour sécuriser le voyage de retour. Ce n'est pas tellement pour le voyage d'aller, mais le voyage du retour pour que Pierre soit vraiment en sécurité. Le fameux Simon-Pierre qu'il ne connaît pas. Ok. Alors j'avais aussi ajouté à la question 7 un peu vos appréciations sur qu'est-ce qui a permis à Pierre, finalement, d'aller au bout des choses. Qu'est-ce qui a facilité dans ce passage, en tout cas, le changement d'attitude de Pierre, hein, si on se souvient de la vision et des animaux pourris, hein, immonde, l'abomination. Déjà, là, il reçoit des païens.
Oui, l'esprit lui a parlé, oui. Déjà. Hein. Et les autres aussi, ils ont été
exactement.
Envoyés par l'esprit, donc ça fait quand même pas mal de choses.
Il se rend compte, en tout cas, en les écoutant, que la vision que lui a eue correspond à la vision que Corneille a reçue. Oui. Donc il y a une sorte de correspondance.
Ce ne sont même pas des simples païens, vais-je dire.
Ah non, 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 ce n'est pas des païens comme le 100% pur pauvre.
Voilà. Ben oui, c'est ça.
Ils sont déjà à 50%.
Ils sont déjà, voilà.
Presque à demi-juif.
C'est ça, c'est ça.
Voilà. Mais ça reste quand même des païens. Oui, oui. En l'occurrence, des mauvais païens, c'est-à-dire ceux qui représentent l'oppression. Oui. Ne l'oublions surtout
oui.
pas, ça.
Oui, oui, oui,
le romain, par excellence, en Judée, c'était la plaie, quoi. Les gens qu'on ne pouvait pas fréquenter.
Oui, donc à la limite, recevoir le soldat, ce sera encore une plus grande difficulté.
Ça, pour moi, c'est très clair. Je trouve que Pierre, là, c'est là qu'on voit qu'il a compris. En acceptant, il aurait pu les envoyer à l'hôtel du coin, hein. On a bien fait le coup pour Joseph et Marie. Pourquoi pas pour lui? On peut dire, ah non, les Romains, là, surtout ceux qui sont en uniforme, ont logé plus loin, mais sinon je suis prêt à vous suivre. Non, non, il y a vraiment tout cédé, et c'est à force d'enfoncer le clou, de la part de Dieu en tout cas, hein, parce qu'on voit déjà la vision qui avait été poussée très loin, puis la concordance entre les visions, puis ces païens qui respectent, qui n'entrent pas. Vous voyez, ce qu'on avait vu la fois passée, le fait qu'ils attendent au portail montre qu'ils connaissent bien les mœurs, les coutumes, et qu'ils ne veulent pas transgresser ces coutumes. À partir du moment où ils y sont invités, alors oui, ils le font, et puis ils sont réunis autour d'une même communauté déjà, communauté d'appréciation, de vie au sujet de Dieu, et voilà. La différence, c'est que Pierre est un juif messianique, c'est tout, par rapport à Corneille, en tout cas. Ok, ça, je pense que c'est bien. Alors, la question suivante...
Mais donc, l'effet, c'est le fait que chacun a eu ses...
La double vision, ou la vision concordante, si tu veux, ou les visions concordantes. Le respect aussi, je pense, qui anime chacun. Corneille qui envoie avec un soldat pour sécuriser... Les trois envoyés qui ne franchissent pas le portail par respect pour les coutumes locales, etc. Tout ça, c'est plein de petites choses qui font que Pierre est, je ne vais pas dire séduit nécessairement, mais en tout cas comprend que Dieu y est pour quelque chose, des deux côtés, et qu'il n'a plus qu'à faire confiance alors à sa propre vision pour aller de l'avant. Donc, il leur offre l'hospitalité. Alors, vous vous rappelez qu'on est plus ou moins... midi, 1h de l'après-midi, ils auraient peut-être pu partir immédiatement, mais manifestement, ce n'est pas ce qu'ils font, parce que justement, il y a hospitalité. Donc, je pense que Pierre tient à ce qu'elle prenne le temps de se poser. Il venait de voyager.
Se reposer aussi.
Oui, oui. Manger, se reposer, repartir le lendemain matin.
Deux jours encore.
Et lui-même a faim.
Et lui-même avait faim. De toute façon, il serait parti. Alors, la question 8 portait sur le verset 24. Le lendemain, donc on a fin du verset 23, le lendemain même, il partit avec eux, sous-entendu les païens, accompagné par quelques frères de Joppé. Et je vous demandais dans la question 8, pourquoi se fait-il accompagner ?
Parce qu'il est témoin.
Oui, il y a plus de crédibilité quand on est deux ou trois à témoigner.
Exactement.
De la même chose.
Peut-être parce que Pierre ne sait pas ce qu'il attend déjà. Oui. C'est un peu trop l'inconnu. En même temps, il a bien compris que ça allait vers une ouverture sur le monde païen. Et donc, il embarque un certain nombre de personnes avec lui pour être garant, pour être témoin, effectivement. Et d'ailleurs, il a eu raison, puisqu'on voit qu'au chapitre 11, ils sont convoqués à Jérusalem par le collège des apôtres qui veulent en savoir plus sur cette idée. Hein, qu'est-ce que vous êtes allé faire à Césarée?
Oui, c'est...
Chez des païens. Voilà. Donc, une bonne chose.
Le témoignage, dans un sens, et dans l'autre sens, quand ils seront revenus.
Mm-hmm. J'ai l'impression que la conversion en Jésus-Christ, dans la nouvelle famille chrétienne, elle devient encore plus communauté. Et tous les événements se vivent encore plus en communauté. Ce n'est pas un homme qui y va et puis qui fera son petit rapport à la communauté. Non, il y a des événements et la communauté vit les événements ensemble. Mm-hmm. Parce que la conversion en Jésus-Christ rassemble une communauté qui vit ensemble.
Oui, on est né dans la famille de Dieu. Et que c'est comme dans une église, hein, quand il y avait des personnes qui se convertissent, qui se rajoutent à l'église. Ça se fait dans l'église. Mm-hmm. Mm-hmm.
Alors, ce qu'on avait déjà vu, mais il y a déjà pas mal de temps, c'est que Joppé, ce n'est pas n'importe quelle ville non plus. À Joppé, c'est déjà un territoire mélangé, mm-hmm. où les Juifs ont l'habitude de côtoyer les païens et vice-versa. Donc, on peut se dire qu'il a réussi à embarquer un certain nombre de personnes avec lui, parce qu'il y a déjà à Joppé une certaine culture de l'ouverture aux païens, quelque part, et donc il les prend avec lui parce qu'il ne sait pas non plus ce qui va se passer mmh. chez Corneille, comment ils vont être reçus, qu'est-ce qui va se passer, etc., pour avoir, oui, des témoins. Alors, bien sûr, tout ça basé sur la vision qu'il a déjà eue, puis la vision de Corneille, basé aussi sur son accueil des païens, puisqu'il leur offre l'hospitalité, et du coup, ben, il a déjà transgressé toutes les règles, hein. Mmh. Donc il est devenu critiquable, mm-hmm. Pierre, le principal apôtre, le chef des apôtres mm-hmm. de Jérusalem. Lui est devenu tout à fait critiquable aux yeux des croyants juifs, notamment du judaïsme pur et dur, comme du judaïsme messianique. Dans tous les cas, il a franchi...
Une barrière, une frontière.
Trop loin, un pont trop loin, si tu veux. Du coup, en se rendant à Césarée, il doit nécessairement... avoir avec lui des témoins de ce qui va s'y passer, comme on le verra en 10:45 par exemple, afin de pouvoir ensemble, pas que lui, rendre compte à Jérusalem ce qui va se dérouler au chapitre 11 de notre texte. Et c'est là d'ailleurs au chapitre 11 qu'on apprend qu'ils sont au nombre de... Je ne sais pas si quelqu'un a eu la curiosité, il aurait pu en embarquer deux, puisque la loi dit deux témoins suffisent, n'est-ce pas ? La loi juive. Et il en embarque, alors c'est dans 11-12 exactement.
6.
Il en embarque 6 avec lui. 6 hommes, sous-entendu juifs, hein, 100% juifs, juifs messianiques, embarqués à Césarée avec lui. Ça montre aussi que les païens sont très ouverts, parce que ouais, on a dit d'aller chercher un homme, ils repartent avec 7. C'est le coup de la grâce.
Il y en a 3 et
il y en a un pour 7.
Mais en tout cas, ça nous montre quoi, cette histoire ? Si on pense à ces fameux 6 frères de Joppé.
Ils n'ont pas peur de voyager, déjà.
C'est pas loin.
50 kilomètres à pied. Grand, et, ouais, en voiture, oui, mais à pied.
Ou à cheval, mais bon, peu importe.
On ne sait pas, on ne dit pas comment.
Non, on ne dit pas comment.
Mais
ouais.
sur leur conception... De la religiosité, partir avec Pierre comme ça à Césarée, qui est quand même, rappelons-le, la capitale des Romains. Le gouverneur de Judée habite là, où les garnisons, on avait vu ça, la 6 garnisons qui sécurisent la Judée, qui sont basées là, etc. Donc ça nous montre une chose quand même, non, que ces frères de Joppé ont eux-mêmes été gagnés par la vision de Pierre. Parce que tu n'embarques pas avec toi des gens qui hésitent, qui disent « Est-ce qu'on fait bien de le faire ? C'est quand même des païens, c'est quand même des gens souillés, c'est quand même des gens qui bouffent n'importe quoi. »
Ils ont ressenti quelque part qu'ils allaient entrer dans une nouvelle ère.
Une nouvelle ère de leur histoire, oui, oui, tout à fait, de l'histoire de l'Église. Enfin, en tout cas, du courant messianique, hein, du judaïsme. Et moi, je trouve ça formidable, quelque part, que déjà là, les 6 qui l'accompagnent sont déjà gagnés à l'idée que c'est une nécessité, qu'on ne va pas pouvoir échapper à cela. Et je pense même qu'ils sont très excités par l'idée de se rendre chez cet officier romain qui a une vision divine. Ce n'est pas chez n'importe qui qu'ils vont. C'est quand même chez quelqu'un qui a déjà les idées très larges en tant que Romain. Papa.
Est-ce que ça veut dire qu'il y avait déjà une communauté chrétienne aujourd'hui?
Oui.
Ces six hommes.
Tout à fait. Grâce d'ailleurs, elle existait déjà avant que Pierre y passe. D'ailleurs, le but, rappelez-vous, le but de Pierre, c'est de faire sa tournée en Judée de tout ce qui existe en termes d'église, bien qu'on ne les appelle pas comme ça à l'époque, de communauté messianique, disons. Donc il s'arrête à Joppé, qui était une petite communauté, mais qui, sur base des miracles faits par Pierre, va devenir une grosse communauté en l'espace de peu de temps. Et c'est la raison pour laquelle Pierre est resté à Joppé, sans doute plusieurs mois, pour enseigner, pour consolider cette nouvelle communauté dans laquelle, vraisemblablement, il y avait déjà des non-juifs qui étaient sympathisants. Voilà.
On peut supposer aussi que pendant tout ce temps de gîte et couvert, ils n'ont pas simplement parlé du beau temps,
exactement,
de la neige et du soleil.
Partager leurs idées.
Ils ont certainement dû, à partir de là, et là ça ne nous est pas relaté, à partir de là, ils ont dû certainement exposer plus aussi. Un petit peu de qui est Corneille, comment il vit. Ils ont dû certainement partager plus d'informations, et peut-être que les frères qui étaient là aussi, plus le témoignage de Pierre de sa vision, ça a dû drôlement les enthousiasmer.
Exactement.
Ouais.
Oui, parce que ça veut dire que Dieu travaille et agit en fonction de ce qu'il avait déjà révélé. Rappelez-vous les tout débuts des Actes. Hein. Dieu leur a envoyé un programme très clair qui était d'aller au-delà des frontières de la Judée, Samarie, etc. Et voilà, donc là ils sont coincés, puis ils comprennent bien que c'est Dieu qui est derrière. Donc ils font. Ils ont confiance quelque part. Moi, ce qui m'a le plus surpris dans ce passage que nous étudions ce soir, c'est l'attitude de Corneille. Verset 24. Je ne sais pas si j'avais posé une question là-dessus.
Oui, il a
confiance. Ah oui, que dénote l'attitude de Corneille qui les attendait.
Il a confiance que Pierre va venir, puisqu'il invite ses gens, ses amis et ses intimes. Ouais.
Donc c'est là qu'on voit que le gars, une fois, balèze quand même. Ouais. Même s'il n'a pas encore tout compris.
C'est ce que je dis, est-ce que Corneille a eu des visions?
Oui, c'est le premier qui les a eues.
C'est lui en premier.
Oui.
Pour lui, il n'y a pas de doute.
Il veut partager.
Ses envoyés vont revenir avec son invité.
Ouais.
C'est très clair. Et comme il sait calculer, lui, il sait qu'il faut 2 jours pour aller, et sans doute 2 pour revenir, il se dit, bah, c'est le bon moment. Moi, ça m'a passionné, ça, de voir que le gars, tout officier romain qu'il est, convoque des gens alors qu'il ne sait pas vraiment si Corneille va dire oui, s'il va se pointer ou pas, si Pierre va se pointer, s'ils vont faire ça en 3 jours, en 4 jours, en 5 jours, en 6 jours. Voilà, bon, donc voilà, et au 4e jour, il a convoqué, dit le texte, ses parents et ses amis. Alors, on joue un peu en grec, certains commentaires disent que amis intimes, ça pourrait être simplement des compatriotes. Des gens qui partagent, mais qui sont déjà tous des craignants de Dieu, apparemment.
Oui, c'est ça, oui.
Il n'y a pas l'ombre d'un doute, ce sont déjà des gens proches, suffisamment proches de Corneille dans les idées que pour être eux-mêmes des craignants de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même incroyable, quoi. Convoquer puis attendre. Mmh. Et d'après vous, il y en a combien comme ça?
Ah, on dit.
Non, on ne nous dit pas exactement le nombre. On ne nous dit pas le nombre.
Maintenant que nous sommes tous devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire, tous.
Mais alors, 27b, qu'on n'a pas étudié aujourd'hui, mais si vous regardez le 27b,
beaucoup de personnes.
Ayant rassemblé. Donc, assistance nombreuse, traduisent d'ailleurs nos traductions, ou bien de nombreuses personnes. Donc, il ne s'était pas contenté d'un, deux, trois. Non, il a convoqué absolument tous ceux qu'il connaissait et qui sont un peu comme lui, proches du judaïsme, suffisamment proches que pour profiter de l'occasion de l'arrivée de ce fameux Simon-Pierre. Quoi. Est-ce que j'oublie quelque chose? En tout cas, acte de foi, pour moi, ça c'est très clair, quoi. Il faut quand même, il faut le faire, quoi.
Ça donne une notion de la communauté, l'idée communautaire chez eux, chez les juifs, mais aussi chez les non-juifs de cette époque. Je pense toujours, tu dois le connaître, toi, Yves, Claude Besson,
oui.
Pasteur à Namur. Mm-hmm. Il s'est converti lors de la campagne d'évangélisation qui a donné naissance à l'Église. Et c'était la suite de 2 années d'équipe d'OM. Et à cette campagne de la mission évangile belge, ce Claude Besson, habitant Jean, rencontre des chrétiens, il écoute le message, il se convertit, une conversion fulgurante, et sa première réaction est ma famille. Et il a voulu tout de suite témoigner à sa famille, ce qui a eu une répercussion au niveau de sa sœur, je pense à un frère, si je me souviens bien, les parents, etc., au fil du temps, et très rapidement. Et moi, cette histoire de Corneille qui invite ses amis, il doit recevoir un message, il pourrait dire, ben, je vais écouter le message que, que l'envoyé va me donner de la part de Dieu, et on verra pour les autres. Mm-hmm. Non, tout de suite, c'est penser, et les autres, ma famille, mes amis, mes proches, mes intimes, ça me fait penser à ce Claude Besson. C'est une réaction que je n'ai pas eue à ma conversion. C'était un peu plus centré sur moi. Ah, j'ai trouvé le Seigneur, j'étais joyeux. Bon, après on pense à la famille, mais tout de suite lui il ne sait pas encore de quoi, et il veut que ses proches partagent cela,
tous ceux qu'il aime en fait, sans convoquer.
Et
alors, je vous fais partager un truc qui est assez intéressant en grec. Ami intime, je ne sais pas si tu as fait attention à ça, mais la notion d'intime en grec, c'est ami nécessaire.
Ami nécessaire.
Les amis nécessaires. Excellente définition de l'amitié.
C'est beau, ça.
On n'est pas ami avec tout le monde et n'importe qui. On est ami avec des gens qui ont un certain amour pour nous et vice-versa.
Il n'aime quand même pas le mot nécessaire.
Parce que nécessaire, ça veut dire qu'on profite de lui.
C'est ça.
Je connais mon époux.
C'est ça qui est...
Au moins,
c'est
marqué intime, moi, dans ma tradition.
Oui, oui, oui. C'est intime, mais en fait, la racine, c'est...
La racine, c'est nécessaire.
C'est l'idée d'être nécessaire.
Mais comme
ceux qui nous sont nécessaires,
exactement,
c'est
dans le bon sens.
Oui, mais c'est un partage.
C'est mieux un partage
sincère, un ami sincère.
Oui, plutôt. Un ami sincère, oui. Nécessaire.
Les vrais amis.
Les amis dont on a besoin pour exister dans la vie.
Les amis gratuits.
Les amis qui t'apportent quelque chose.
Nécessaire.
Il n'y a pas de gratuité.
Voilà, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Et la réplicité,
c'est ça qui...
Non, c'est sûrement pas ça.
Voilà. Alors évidemment, j'ai arbitrairement arrêté notre texte là. On aurait pu continuer, mais alors après, ben, on n'a plus assez de temps pour le reste, etc. Donc c'est un peu dommage. Par contre, la fois prochaine, on aura les versets 25 à 33. Donc je laisse le discours de Pierre pour plus tard, parce que ce serait beaucoup trop long. Déjà, les versets 25 à 33 sont assez riches. Et j'ai baptisé ça « Arrivée de Pierre chez Corneille à Césarée ». On va voir comment ça se passe, cette arrivée. Comment Pierre vit ça et comment Corneille accueille Pierre. Donc, c'est assez intéressant aussi. Voilà, alors maintenant, essayons quand même de tirer quelques
applications
de ce texte qui ne nous paraissait pas très difficile. Ben, à nous, c'est pas difficile, mais en fait, si on se met à la place de Pierre et des frères de Jopé, on imagine bien l'énorme bond que ça représente. Bon, ça devait pas être si facile que ça pour eux, même s'ils étaient stimulés, excités par la bonne nouvelle. Hein. Quelque part, il fallait passer au-delà de leurs habitudes, de leurs traditions. Hein, c'est comme si on vous demandait du jour au lendemain de nous...
Une révolution.
Voilà, exactement.
Mais c'est pour ça que dans le verset 28, il dit bien, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui.
Exactement.
Mais Dieu n'a appris à ne regarder aucun homme.
Dans les règles des pharisiens, c'était très clair.
Mais la phrase en dessous, c'est beaucoup aussi, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur.
Et c'est là que tu vois que c'est vraiment la compréhension
ça, c'est
complète de la vision. À ce moment-là, quand il dit cela. Alors, par rapport à ce qu'on a fait ce soir, est-ce qu'on a quelques idées d'application?
En tout cas, partage. Partage du message.
Chacun, malgré leur différence, malgré la différence, doit être accueilli. Et c'est pas toujours évident, comme tu l'as dit tout à l'heure.
Oui. Et alors, comment dirais-je donc, tu peux recevoir quelque chose de quelqu'un qui ne partage pas du tout les mêmes pensées, les mêmes idéaux que toi. Mmh. Et ça peut être très bénéfique pour toi-même. Mmh. Je trouve que c'est ça que je retrouve là-dedans, quoi.
En fait, c'est là que tu te rends compte qu'être frère ou sœur, ça implique d'accueillir celui qui ne te ressemble pas. Pour la petite histoire, je l'ai peut-être déjà raconté ça lors d'une soirée entre nous, mais jeune pasteur, donc dans mon premier vrai poste, on va dire ça, quand j'étais pas que remplaçant, dans mon premier vrai poste pastoral, un de nos paroissiens était un ancien colonel de l'armée, bien, bien, bien à droite. Très, 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 très à droite. À droite politique. Et qui n'en cachait rien de ce qu'il pensait. J'avais beaucoup de mal en tant que pasteur plutôt à gauche, on va dire, au niveau politique à ce moment-là, de me sentir à l'aise avec lui. Et j'avais un peu l'impression que ce gars était à la retraite, donc il avait une manière d'écraser tout le monde avec ses connaissances, son savoir, ses idées politiques, etc. C'était toujours très très compliqué, très difficile. Mais là, j'ai dû apprendre vraiment ce que c'était que d'être frère et pasteur. Ce pasteur veut dire tout paroissien est un paroissien. Il n'y a pas des demi-paroissiens. Non. Voilà. C'était pas évident du tout, quoi.
Le paroissien de devant, celui du fond.
Tout à fait. Il est à la chorale avec lui, non ?
Le premier rang, c'était en profond.
Oui, c'était un grand colonel sec.
Yves, oui. C'est vrai, en face d'un paillet. Qui te doit amener à.
Bah, oui,
non, non, non,
non, non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, par contre, que si tu as une mission comme être pasteur, tu es en face de quelqu'un que tu essayes d'amener à Christ, de convertir de manière saine, je veux dire. Hein. Et le colonel, ben, même s'il croyait, etc.,
Il était protestant de souche.
Ça veut rien dire non plus.
Oui. Non, 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 surtout en Cévennes.
Mais non, c'est enfin. Non,
et maintenant arrêtons de faire les oeufs. Et... Donc j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un nous dire qu'il fallait être capable d'accueillir donc, ceux qui ne sont pas tout à fait comme nous. Mm-hmm. Et ça existait déjà dans l'Ancien Testament, ça. Si vous vous souvenez de ces fameuses phrases « ne faire acception de personne », c'est pas le Nouveau Testament qui en parle en premier. C'était déjà dans l'Ancien Testament, dans plusieurs passages, dans Lévitique, donc dans la loi, dans Exode, dans Deutéronome, on trouve ces injonctions divines qui disent « attention, tu dois accueillir celui qui n'est pas hébreu ». Donc il y avait en Israël, enfin dans le territoire de Canaan, il y avait des tas de non-juifs qui avaient été acceptés comme faisant partie de la communauté avec qui on avait des relations, etc. Et puis, évidemment, le Nouveau Testament, lui, va créer une sorte d'égalité, notamment avec ces textes que nous étudions, entre toutes les créatures, qu'on soit juif ou gentil, dans tous les cas, on est accepté par Dieu au travers du Christ, évidemment. Et d'ailleurs, il y a égalité parce que nous sommes tous pécheurs, le juif comme le gentil. Et c'est pour ça que Dieu nous voit plus ou moins de la même manière et nous accorde un certain salut. Maintenant, j'avais une application un peu impertinente, mais qui consistait à dire, ben oui, s'il nous arrive de recevoir une vision ou une révélation, est-ce que nous n'avons pas un peu comme Pierre des difficultés à comprendre ce que Dieu nous veut, surtout si c'est contraire à nos valeurs et à nos habitudes. Bon, j'imagine que si dans notre... Je ne sais pas si ça vous est arrivé, dans le cursus de votre vie chrétienne, de recevoir des convictions qui vous font aller plus loin que ce que vous auriez cru au départ. Vous voyez, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais on a quand même, on est tous nés, nous, soit dans tel ou tel milieu, soit un milieu athée pour toi, protestant pour toi, catholique pour toi, etc. On est tous nés quelque part, comme dit la chanson. Et donc, on adopte la culture de ce quelque part. Et on croit que cette culture est la bonne, évidemment, puisqu'on y est né, qu'on a été éduqué comme ça, c'est bien normal. Mais souvent, Dieu nous dit, ah, il y a encore autre chose à faire. Un cran plus loin. Et je ne sais pas si ça va de soi, quand Dieu nous fait constater que finalement, nous vivons pas dans un ghetto, mais on vit dans un petit cocon assez sécure, hein, de nos bonnes idées, de nos valeurs. Mais finalement, allez, si ce soir, un païen de l'extérieur avait voulu s'incruster, est-ce que nous serions aptes
à accueillir?
Et un peu, pour reprendre les termes de tout à l'heure, stimulés, excités par l'idée d'accueillir quelqu'un de tellement différent de nous, mais qui s'intéresse malgré tout à ce Dieu qui est le Dieu d'Israël, qui est aussi notre Dieu. Je ne sais pas si ça va de soi, honnêtement.
Tu mets quand même une condition là aussi, hein, qui s'intéresse et qui soit...
Oui, mais il ne viendrait pas si ça l'intéressait pas. Ceci dit, il y a des gens qui viennent aussi pour poser des questions qui sont qui nous dérangent. Oui. Pas nécessairement, mais qui nous dérangent. Parce qu'ils les posent en tant que païens, justement. Et c'est légitime.
Et se moquer après.
Oui, aussi.
Je pense à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les applications de la fois précédente, mais quand des gens si différents de nous avec toutes les mentalités d'aujourd'hui, s'approche de l'Église, est-ce que c'est si évident de les intégrer? Moi, je crois qu'eux ont plus facile que nous à s'intégrer dans l'Église. Alors que nous, nous avons
pourquoi
nos
parce
idées...
Que, parce que c'est eux qui désirent venir.
Parce qu'ils découvrent. Donc c'est plus facile. Ils sont prêts à lâcher du lest parce qu'ils veulent un changement. Mais nous, en tant que croyants, bien souvent, on est déjà bien engoncés dans nos mentalités, nos pratiques. Je vais prendre des bêtes exemples, mais on pourrait se battre autour de la notion de Sainte-Cène, par exemple. Est-ce que la Sainte-Cène, ça se prend avec un calice? Est-ce qu'on peut prendre la Sainte-Cène avec des petits verres, tu vois? Est-ce qu'on peut prendre la Sainte-Cène au cours d'un repas? Un vrai repas?
Mais comment est-ce qu'on gère ça?
Parce que nous, c'est là qu'on voit que nos traditions...
On a eu le cas dimanche passé. Hier,
oui, ça s'est bien terminé.
Ouais,
non, je rigole.
Ça ne s'est pas terminé.
Non, on n'a pas relevé le mot.
Personne n'a relevé le mot, mais on voit une personne qui vient, qui est plutôt catholique, et qui dans sa prière dit, ben voilà, c'est dommage que nous ne partageons pas la même opinion sur
la présence du Christ.
La présence du Christ, parce que voilà, elle étaye un peu sa manière de voir les choses. Ben, c'est embêtant, quoi. Ouais. C'est embêtant. Ouais. Est-ce qu'il faut répondre? Est-ce qu'il faut... C'est hyper difficile.
Tu as vu Jean-Luc après?
Oui.
Et qu'est-ce qu'il en dit?
Ben oui.
Comment?
Il était mal à l'aise.
Je crois que tout le monde s'est senti mal à l'aise.
Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il me dit, qu'est-ce que tu aurais fait? Ben, je dis, écoute, moi, franchement, tu as bien agi.
C'est pas à ce moment qu'il faut entamer le
débat. On va pas faire une bagarre. Hein. Maintenant, je dis, tant qu'elle vient, ben, c'est parfait, puisqu'elle entend la parole, je vais dire, autrement que dans les milieux qu'elle fréquente habituellement. Mais oui, ça a été pénible. Ça jette un froid. Imaginons maintenant qu'elle vienne à prier Marie, tu vois, ou les saints. Alors, ben, c'est bien d'accueillir. Ouais, moi, je suis pour l'accueil. Mais, tu vois...
Et la personne est bien accueillie dans l'Église. Hein?
Ah oui, hein?
C'est quelqu'un qui...
Ah ouais, déjà... qu'on aime bien, qu'on accueille très chaleureusement, oui. Mais, et c'est embêtant, tu vois. Donc, on confronte...
Ça dépend aussi. Moi, je dis, ça dépend aussi de...
S'acheter un sort.
Ça dépend de la manière dont c'est fait.
Voilà. Quel est son but, ouais. Tu vois, elle peut avoir, elle, une interprétation qui diffère des autres,
oui.
D'accord,
et qu'on accepte,
et qu'on doit accepter,
bah oui.
Et qui n'est pas la nôtre, ouais. Tu vois, ouais. Et c'est ça la richesse. Parce que moi, j'ai déjà entendu dire, oui, mais bon, la Bible, il y a différentes interprétations. Il y a des grands, théologiens, etc., qui ne sont pas d'accord, même parfois sur un mot, etc. Donc, je crois que c'est le respect de l'autre aussi. Et le respect aussi du lieu où tu es.
Ben oui.
D'accord ? Tu étais dans un culte protestant. Oui. Donc, qu'elle ait dit ça, d'accord, mais il ne faudrait pas que, à chaque fois,
ça peut montrer que cette personne se sent accueillie et qu'elle est en confiance.
Ça, oui. Ça, c'est vrai.
Et si elle prend cette liberté-là.
C'est ça qui est important. Ouais. Moi aussi, j'ai tiqué un petit peu, mais tiqué dans un sens, il faut être courageux aussi, parfois, de dire ça.
Parce que...
Dans une communauté qui n'a pas cette idée-là.
Mm-hmm. Bon. Maintenant, évidemment, c'est dommage quand ça a lieu lors des prières libres.
Oui, hein.
Ouais. C'est adressé. C'est fait pour la louange.
La louange de Dieu, oui. Pas pour régler quelque part, c'est con.
Et ça, c'est dommage.
Oui, bon, ouais. Voilà. Ouais. Parce qu'inversement, moi j'aurais pu régler ces comptes aussi dans ma prière qui a suivi, tu vois. Donc, comment est-ce qu'il faut faire pour bien faire, pour ne pas choquer? Parce que c'est vrai qu'on a de l'amour pour les gens et qui ont une autre croyance, une autre culture, etc.
Je crois beaucoup à la notion du temps.
Le temps.
Oui. Tu ne peux pas régler des choses comme ça en deux temps, trois mouvements, parce que tu veux que ce soit carré, etc. Ouais. Il y a une question d'appréciation, une question d'humanisation, une question de relation. Quand on peut se sentir en confiance avec une personne qui semble comme ça s'opposer, même si je pense que ce n'est peut-être pas le cas, mais voilà, est-ce qu'il faut réagir au quart de tour ou est-ce qu'il faut prendre le temps d'avoir une vraie discussion avec cette personne?
Elle a juste émis quand même un sentiment que pour elle regrettait que la notion d'Eucharistie n'était pas la même chez les catholiques et chez les protestants.
Là où elle est la même, c'est que dans ce moment-là, on croit vraiment que le Christ est présent.
Là, oui.
On partage, le mémorial s'adresse autant à lui qu'à nous.
Oui, oui, oui.
C'est ça l'essentiel, finalement.
Parce que finalement, le Christ est présent.
C'est ça qui est important.
S'il n'était pas présent dans nos vies, on ne s'amuserait pas à prendre une dinette tous les dimanches. Un bout de pain et un petit coup de vin, ça n'a pas de sens.
Et moi, je pose
si tu regardes ça d'un œil extérieur à l'église, c'est complètement farfelu.
Ouais, c'est juste.
Chacun avec son petit morceau de pain, un petit godet de rien du tout. Moi, ça me fait penser à la dinette des enfants.
C'est une dinette des enfants. Ouais.
Alors que le calice soit plus ou moins grand, c'est encore autre chose.
C'est dans le symbole, c'est sûr.
Mais néanmoins, le Christ est présent.
Est-ce qu'il y a aussi des moyens dans nos communautés où on peut discuter, s'exprimer d'une autre manière que dans un carcan de culte?
Oui, il suffit de demander à un frère.
Je pose la question.
Si vous voulez partager une visite avec l'ensemble de l'Église, t'as pas un moment qui se prête. Chacun avec les autres.
C'est une personne de un à un.
Oui, c'est ça, ou un petit groupe. C'est dit que là, elle a touché tout le monde d'un coup.
Ah oui, ça c'est sûr.
Ça fait un peu boule de bowling.
Strike. Ah oui, c'était un beau strike.
Mais ça montre, tu vois, qu'on doit trouver du temps dans toutes nos communautés pour discuter vraiment, pour partager. Parce que sinon, tu ne sais jamais trop qu'est-ce que l'autre cherche, pourquoi il dit, pourquoi il fait.
Mais de quelle manière on peut avoir alors ce dialogue-là? Parce que c'est Robert qui fait la remarque en disant, alors c'est de 1 à 1, tu vois, ça n'est plus une discussion comme nous avons ici à table, par exemple.
On pourrait imaginer que les leaders s'emparent du problème, par exemple. Mais maintenant, ça m'est arrivé, et même à Jemmaps une fois, je crois, ça m'est arrivé de proposer aux gens de poser des questions auxquelles je répondrai un dimanche.
Oui,
Et c'était des questions anonymes par écrit. Et là, tu peux dire, tu peux sortir des sentiers battus, parce que tu sais, Nous, on croit que tout le monde pense la même chose, mais c'est pas vrai.
Ben, ouais,
même
ça.
Dans nos communautés,
ah,
ben, disant,
oui.
Hein, viens de rêver,
il y en a qui sont. De toute façon, ouais, même aucun au même endroit sur la route. Hein.
Tout le monde a des questions, ben, oui. Et des questions qui les taraudent depuis des années auxquelles ils n'ont pas de réponse.
Mm-hmm. Le bénéfice voilà. D'une étude publique, peut-être,
ça, c'est bien.
Pour Blény, le bénéfice d'une étude publique apporterait peut-être beaucoup.
Il y en avait avant, je ne sais pas.
Nous n'avons que
si tu n'as que le dimanche, c'est sûr que c'est.
Nous n'avons que le culte et la personne donc n'a pas d'autres possibilités de
poser ses questions
dans une étude publique. Faudrait-il encore savoir si elle viendrait ou pas.
Oui,
mais en principe, le culte est quand même une cérémonie rendue à Dieu. C'est quand même un peu délicat d'interrompre le culte comme ça par un avis personnel que tu donnes. Donc c'était pas l'idée de son intervention.
Non.
Mais peut-être parce qu'elle n'a pas d'autres possibilités de le faire.
Mais avant, on avait des réunions à Blény.
Ah.
Oui.
Une réunion de prière, mais qui ne se fait pas nécessairement.
Oui, mais même une étude, mais ça remonte tout le temps de Florence. On était plus nombreux.
Puis c'est pas uniquement.
Mais alors, tu vois, il y aurait un petit groupe, ben, au moins les questions peuvent s'oublier.
Mais c'est pas uniquement une étude biblique où on suit comme ici. C'est répondre peut-être à des attentes de personnes qui auraient des questions. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas ouvrir la Bible, je ne dis pas ça.
Non,
mais je
ne
dis pas, ici on suit.
Ouais. Ah oui, oui,
tu vois. Donc, répondre à des questions, comme il dit, qu'on les soumet à l'avance, et éventuellement même les afficher, les questions. Tiens, on va discuter tellement telle question. Voilà.
Moi, j'ai fait ça beaucoup avec les jeunes. Partir des questions des jeunes, plutôt que de venir avec un sujet, tu vois.
Moi, je suis jeune. Moi, je suis jeune. Mais depuis peut-être plus longtemps, mais...
Oui, mais c'est tellement demandé pourquoi...
Jeune de cœur.
Oui,
ok.
Je pense que... C'est aussi par souci d'écologie, pour se nettoyer les lèvres, et puis elle a continué en disant, et je déplore le fait que...
J'ai failli éclater le tri quand elle m'a dit qu'elle ne prenait pas le vin parce qu'elle ne pouvait pas faire du travail.
Il y a un obstacle là quelque part que la personne ne comprend pas.
Mais non, si
donc,
Donc ma question était tout à fait intelligente.
Ah oui, hein.